toujours encouragé par de voir de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, et de louer le Seigneur avec eux. Et puis ici, c'est un peu particulier parce que je connais plusieurs d'entre vous avec qui on partage rarement des cultes ensemble, mais on a été souvent à l'œuvre dans de multiples projets. Donc je suis très heureux d'être avec vous, et puis aujourd'hui on se pose et on glorifie le Seigneur ensemble. Voilà, donc je m'appelle Michel, je suis marié à Bénédicte. Depuis quelques semaines, nous habitons à Gap, dans les Hautes-Alpes. Et j'ai un ministère à plein temps dans notre famille d'église, donc les communautés assemblées évangéliques de France, les CAEF. On peut dire qu'il y a trois axes dans mon ministère. Je me suis occupé longuement de la jeunesse, je continue, c'est un secteur de mon ministère, de suivre un peu l'équipe AJC pour ceux qui connaissent, et je continue de travailler avec eux. Je travaille aussi avec la commission de service, la commission de coordination de nos églises qui coordonne un petit peu l'ensemble des problématiques au niveau national. Et puis, depuis peu, je coordonne ce qu'on appelle le pôle mission. On pourrait parler aussi de l'ASMAF. Combien d'entre vous connaissent l'ASMAF, cette vieille association missionnaire? Bon, mais c'est parfait. Je veux dire qu'aujourd'hui, on travaille vraiment à une unité, un rassemblement, j'arrive plus à trouver le mot, une fusion, pôle mission, ASMAF. Je vous annonce une exclusivité, mais c'est possible que dans quelques semaines, cela se réalise. Hein, voilà, pour avancer sur le thème de la mission, pour sensibiliser nos églises, la nouvelle génération, à cet aspect missionnaire, je dirais deux mots, puisque ça va être le thème de mon message. Voilà, alors je crois qu'il y a un culte à 11h, donc on va continuer, on va avancer assez vite. Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Et là, bien sûr, on va retrouver le grand ordre de mission. Vous savez, le « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, versets 19 à 20. Et pendant que vous cherchez ce texte dans vos Bibles, je vous donne un petit plan des questions que je souhaiterais aborder avec vous ce matin. D'abord, on va se poser la question, quelle est cette mission et qui est concerné par cette mission? Ensuite, une autre question, quelle est la place de l'action sociale dans cet ordre de mission? J'essaierai brièvement de répondre à trois autres petites questions. Est-ce qu'on peut partager le message de l'Évangile sans mener une action sociale? Ou au contraire, est-ce qu'on peut mener une action sociale sans partage audible de l'Évangile? Est-ce que le partage du message de l'Évangile est la priorité? Voilà, j'essaierai d'aborder ces petites questions aussi. Et en dernier, qu'est-ce qui justifie la mission transculturelle, c'est-à-dire la mission au loin, dans ce grand ordre de mission que nous donne Jésus? Alors, premièrement, la grande mission. Il paraît qu'il faut que j'aille par là-bas. Ça ne marche pas, alors je laisse faire les techniciens et pendant ce temps, j'avance. Voilà, nous allons replacer dans son contexte immédiat et aussi dans la globalité de l'enseignement biblique ces paroles de Jésus, Matthieu 28, versets 19 à 20. Et c'est parfait, elles sont derrière moi, je vais les lire. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ça marche. Merci. La grande mission. Vous notez déjà dans ces quelques lignes que les personnes présentes se sont prosternées ou l'ont adoré. Cela dépend un petit peu de la version biblique que vous avez. Peu de temps avant, les femmes s'étaient rendues au tombeau et avaient été prévenues par l'ange de se rendre en Galilée pour voir Christ ressuscité. Et là, nous sommes une vingtaine de jours plus tard environ, et de nombreux disciples ont été informés qu'ils pourraient voir Jésus là-bas en Galilée. Alors on peut imaginer le nombre de personnes interpellées qui se posent la question, est-ce que je monte là-bas jusqu'en Galilée, parce qu'il y a quand même du chemin entre Jérusalem et la Galilée, pour aller voir Jésus sur cette montagne où il avait déjà enseigné. On peut imaginer que tous sont encouragés parce que les 11 disciples font le déplacement, eux aussi savent qu'ils peuvent voir Jésus en Galilée. Et puis en Galilée, c'est un endroit un peu spécial puisque c'est là que Jésus a développé son ministère, il est très connu, donc on peut imaginer le nombre de personnes qui souhaitaient se rendre sur la montagne. En même temps, il fallait aussi une bonne dose de foi pour se dire, ben non, Jésus il est mort, on l'a vu sur la croix, qu'est-ce que je vais aller faire? Pourquoi je vais aller me déplacer et je vais monter sur cette montagne et faire ces jours de marche pour m'y rendre? Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 6, l'apôtre Paul nous rapporte que plus de 500 frères étaient présents et ont entendu Jésus sur la montagne, ont entendu cet ordre de mission « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». 500 frères qui ont fait le déplacement parce qu'ils avaient compris que Jésus était ressuscité. Ils espéraient en lui. Ils avaient compris que Jésus, c'était le Christ, c'était loin, c'était le Messie. C'est le thème de l'évangile de Matthieu, de présenter Jésus comme le Messie. Et Christ est reconnu comme le roi par ces 500 personnes. Le roi qui était tant attendu par les Juifs. Et ils se prosternent devant lui. La grande mission, c'est d'abord, avant tout, un acte d'adoration. On pourrait dire une conséquence, un effet pour adorer le Seigneur. Et lorsqu'on regarde l'ensemble de la Bible, d'ailleurs, l'objectif suprême pour l'homme, c'est d'adorer Dieu. C'est la finalité. Le prophète Ésaïe nous dit « L'Éternel parle de ceux qui portent son nom et ont été créés pour sa gloire ». Vous pouvez lire aussi l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 1, verset 12, verset 14. « Nous avons été destinés à l'avance à célébrer sa gloire. » Dieu s'est acquis un peuple pour célébrer sa gloire. Un missiologue, théologien qui s'appelle John Piper, vous connaissez bien, dit ceci dans un des derniers livres qu'il a écrit sur la mission. « Les missions ne sont pas la priorité suprême de l'Église. La priorité, c'est l'adoration. L'adoration est fondamentale et non pas les missions, parce que Dieu est fondamental et pas l'homme. Les missions sont une nécessité temporaire, mais l'adoration demeurera à jamais. » Voilà, la grande mission replacée dans son contexte. Jésus nous embarque avec lui dans cette grande mission, mais c'est d'abord, avant tout, un acte d'adoration. La grande mission, c'est ma mission. On peut se poser la question, est-ce une option? Est-ce que cet ordre d'aller est facultatif? Est-ce une responsabilité réservée à ceux qui ont reçu un appel? Et c'est trompeur, nous entendons souvent des personnes qui vous disent ben « moi j'ai reçu un appel ». Là, dans le texte, le « aller » est adressé à chacun. La mission de « aller », c'est pour tous, c'est un devoir, une responsabilité, finalement une logique réponse à la reconnaissance de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, à l'acceptation de l'Évangile dans sa vie. C'est Henri Briand qui dit dans son commentaire sur l'évangile de Matthieu, il dit ceci, « Celui qui n'est pas prêt à partager avec les autres le trésor qu'il a trouvé en Christ n'en reconnaît pas réellement la valeur. » Le cœur donc de la motivation, le cœur du « aller », c'est la reconnaissance de qui est le Christ. La reconnaissance en retour de la grâce qu'il nous a accordée. Et donc Jésus appelle tous ses adorateurs, tous ceux qui le reconnaissent en tant que tel, sans exception, à travers cet ordre de mission. Et finalement, la mission, Le travail au service de l'Évangile n'est rien d'autre que la vie chrétienne normale. On pourrait dire, au même titre que nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à nous débarrasser du péché, à laisser Dieu transformer notre caractère. Nous sommes appelés aussi à servir, à aller. Alors il ne faut plus se poser la question, ne vous posez plus la question si vous êtes appelés, puisque tous sont appelés. Il y a d'autres questions, de bonnes questions à se poser. Disciples où? Disciples à quel service? Quand? Comment? Je fais le parallèle avec les témoignages de conversion que nous entendons souvent lors des baptêmes. Bien, c'est vrai que les moyens utilisés par le Seigneur, par le Saint-Esprit, sont très différents. Dieu se révèle de manière différente. Il peut révéler sa volonté de manière très simple, très discrète, au fur et à mesure de nos engagements. Mais il peut aussi se révéler de manière exceptionnelle, de manière précise, voire même par anticipation pour certains d'entre nous. Il n'y a pas de formule unique. Un point commun quand même, que l'on retrouve tout au long de la Bible, quelle que soit la manière utilisée par le Saint-Esprit, la direction de cet appel, le où, le à quel service, le comment, est en général confirmée par l'Église locale et en accord avec les responsables de l'Église locale. Alors peut-être que vous faites partie de ceux qui ont répondu à l'appel, je pense peut-être aux plus jeunes d'entre nous, mais que la direction n'est pas encore très claire. Ça, je le conçois aussi, évidemment. Alors je vous donne deux conseils. Recherchez avant tout la croissance spirituelle, puisque notre rôle premier, c'est l'adoration. Recherchons d'abord, avant tout, la croissance spirituelle, et Dieu a du boulot avec notre péché. Et puis, engagez-vous, engageons-nous dans les divers besoins de l'Église locale. On ne se pose pas la question si on a le don pour faire le ménage. Et la vision s'éclaircira au fil des engagements, de la découverte de ses dons, de ses sensibilités, et surtout au final, du retour des frères et sœurs aînés dans la foi. Et je pourrais parler longuement de comment j'ai démarré par le ménage dans l'Église, alors que j'avais du mal à le faire à la maison. J'ai fait manœuvre, je ne suis pas vraiment bricoleur à la base, j'ai fait chauffeur, ça me convenait mieux. Et je n'aurais jamais imaginé, ni même désiré un jour porter les responsabilités que le Seigneur m'a données aujourd'hui. Il y a un vrai souci. Le vrai souci, c'est cette question, donc, par rapport à cette question, pardon, on dissipe où et à quel service, le vrai souci, c'est que cette question n'est souvent pas prioritaire. N'est pas prioritaire dans nos vies parce que nous sommes trop occupés, trop préoccupés par notre réussite affective, professionnelle, par nos loisirs. Dieu appelle, mais c'est à nous de servir, c'est à nous de nous mettre au travail. Alors d'autres peut-être sont encore un peu dans le doute. Et ce texte est vraiment chouette parce qu'il nous dit « quelques-uns eurent des doutes ». On peut imaginer, ils ont eu des doutes déjà à se dire « est-ce que je vais me déplacer jusqu'à la montagne ?» Et puis lorsqu'ils étaient là, qu'ils avaient Jésus en face d'eux, ils avaient encore des doutes. On reconnaît bien le côté bien humain de ces disciples. Le doute fait partie intégralement de notre nature. Le doute est créé par Dieu. Le doute, ce n'est pas un péché en soi, sauf peut-être s'il devait s'installer. Et au contraire, nos doutes sont bénéfiques pour une bonne prise de décision et devraient nous encourager à approfondir notre connaissance du Christ qu'il est, approfondir la dimension de sa grandeur, de sa sainteté, quelle est sa volonté, explorer la dimension de son amour envers nous, malgré notre péché, essayer de comprendre pourquoi il veut nous envoyer comme ambassadeur pour le représenter dans ce monde. Quelques-uns eurent des doutes. Voilà. Et le Seigneur peut chasser nos doutes. La grande mission, donc, s'inscrit comme un acte d'adoration. C'est ma mission. La grande mission, c'est un acte d'adoration. Et je voudrais continuer. La grande mission, c'est une mission intégrale. Le aller, c'est pour quoi faire ? Former des disciples ? Et vous imaginez que former des disciples, a de grandes implications, bien plus larges que la seule proclamation de l'Évangile. Parce que c'est un travail en profondeur, sur la durée, annoncer l'Évangile avec un grand E dans toutes ses dimensions. La grande mission, c'est une mission que l'on peut qualifier comme intégrale, comme holistique. Je vous définis cela, c'est l'Évangile qui considère toutes les dimensions de l'homme, les dimensions de l'homme physique, spirituel, social et culturel. Alors pourquoi donc je vous parle de mission intégrale? Jésus nous dit dans ce texte, faites tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 14,14 par exemple dit ceci, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Trois mots résument le ministère de Jésus, il enseignait, il prêchait, il guérissait. Et il sut maintenir un parfait équilibre entre la parole et les actes de compassion. Il enseignait, il prêchait, il guérissait, il nourrissait aussi, vous connaissez cet épisode des 5 pains et des 2 poissons pour des milliers de personnes. Jésus démontrait en acte l'amour de Dieu qu'il prêchait, il répondait à l'ensemble des besoins physiques, spirituels de son prochain. Et il nous demande de mettre en pratique ce qu'il nous a prescrit. Dans le Nouveau Testament, on lit Jacques, par exemple, qui est très direct. Il nous dit ceci, Jacques 1, verset 27. « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Et ce mot « veuve et orphelin » est une expression générique dans la Bible qui décrit la pauvreté. Ces principes ont été repris par les textes dits de Lausanne. Vous savez, ce sont ces conférences, grandes conférences internationales avec tous les grands théologiens du monde entier qui réfléchissent. Depuis 1974, aux conférences de Lausanne, ils ont dit ceci. Nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents et que nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme s'excluant l'une l'autre. Nous affirmons que l'évangélisation et l'enseignement sociopolitique font tous deux partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Et beaucoup plus récemment, aux dernières conférences dites de Lausanne, qui se passaient au Cap en Afrique du Sud, ils ont dit ceci. Nous embrassons le témoignage de la Bible tout entière, qui nous montre le désir de Dieu que prévale partout la justice économique et que s'exprime aussi la compassion personnelle à l'égard des personnes pauvres et nécessiteuses. Nous nous réjouissons de ce que cet enseignement, qui est un fil conducteur parcourant toute la Bible, est de plus en plus intégré dans nos stratégies et pratiques missionnaires, comme c'était le cas pour l'Église primitive et l'apôtre Paul. L'Évangile intégral. Alors à nous, dans ce que je vois, dans ce que je fais, dans nos églises, il nous est parfois reproché d'instrumentaliser l'action sociale au profit de la communication du message biblique. Et donc vous voyez, je suis en train d'aborder ces questions de mon introduction. Peut-on partager le message de l'Évangile sans mener une action sociale? Ou au contraire, peut-on mener une action, une mission d'action sociale sans partage audible de l'Évangile? Est-ce que le message de l'Évangile est la priorité? En fait, l'Évangile, c'est quoi? Au départ, c'est une histoire. C'est une nouvelle. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, etc., etc. Donc cette nouvelle, évidemment, il faut la partager. Mais de l'autre, il y a les besoins humains. Les besoins humains qui ne sont pas uniquement spirituels. Alors on est d'accord, même si le partage de la bonne nouvelle de Jésus est le plus important, dans certaines situations, cette annonce verbale de l'Évangile ne pourra pas se réaliser. Parce que sur le terrain, finalement, il y a des priorités par rapport aux besoins, par rapport à l'état, le contexte dans lequel on va trouver la personne. Et puis aussi par rapport à ce que nous sommes capables de donner. Parce que nous n'avons pas tous la même vocation, nous n'avons pas les mêmes dons, nous n'avons pas les mêmes capacités. Alors finalement, notre responsabilité, j'essaie de résumer tout cela, mais notre responsabilité est de rester attentif et proactif à l'annonce de l'Évangile, mais sans toujours calculer notre engagement social. Et je me suis posé la question, est-ce que Jésus calculait, lorsqu'on lit les Évangiles et la manière dont il enseignait, prêchait, guérissait? Je pense que notre contexte de vie nous rend peu sensibles à cette dimension de mission intégrale. C'est compréhensible, ce que nous partageons. Nous rencontrons peu de personnes qui sont réellement dans le besoin, dans des besoins matériels. Alors moi, j'ai pris une petite claque. J'ai eu la chance, donc, avec ce nouveau ministère, de me rendre plusieurs fois au Tchad, d'avoir beaucoup de contacts avec nos frères et sœurs africains, qui, avec leurs faibles moyens, sont des modèles de la mission intégrale. Lorsque le secrétaire général, par exemple, je parle des AET, une grande famille d'églises au Tchad, presque 2000 assemblées parlent, ils parlent du bras droit et du bras gauche. L'évangélisation, c'est le bras droit et le bras gauche, c'est le pain et la parole. Lorsqu'il parle d'évangélisation, il parle d'école, d'internat, de centre de soins, d'orphelinat, de centre d'apprentissage, d'un métier, de formation, par exemple, pour passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture entrepreneuriale, tout en implantant des églises. Et l'évangile, c'est un projet holistique, global, intégral. Si on regarde la Bible, dès la création, Dieu s'est soucié de l'ensemble des besoins humains, spirituels, physiques, sociaux et culturels. Et je crois vraiment que l'action sociale, c'est un acte d'amour et que nous devons aussi garder cet équilibre que Jésus a montré, d'être attentif à la rupture de cohérence entre nos actes et nos paroles. Il y a un équilibre à trouver dans notre témoignage personnel. Nous sommes appelés à être sel et lumière du monde, à travers, avec nos amis, notre famille, nos collègues de travail. Et il y a un équilibre à trouver aussi dans notre église locale. Et je pense que l'église locale doit aussi se poser la question, quel engagement dans les besoins autres que spirituels de nos contemporains? J'ai relevé plusieurs bienfaits d'une église en mission. D'abord, une petite histoire, un exemple personnel. Je me suis souvent présenté, je fais partie d'un club sportif, c'est un club d'escalade, et j'allais à des horaires différents, je rencontrais beaucoup de nouvelles personnes. Alors on se présente, tu fais quoi dans la vie? Chaque fois que je me suis présenté comme pasteur, 9 fois sur 10, la communication est fermée. Rejet. Et c'est très difficile d'entretenir des liens après. Alors j'ai un petit peu réfléchi ces dernières années, comme je m'occupais de l'association jeunesse, j'expliquais, ben voilà, je dirige une association jeunesse, etc., dans le milieu protestant. Bon, là, c'était neutre. Je pouvais continuer à discuter avec mes collègues sportifs. Et puis ces derniers temps, j'ai fait un nouvel essai. J'ai tenté l'expérience, j'ai dit, ben voilà, tu vois, je dirige une association à but humanitaire. Et là, c'est très intéressant, parce que là, ça attire la sympathie des personnes. Tout de suite, les personnes, « Ah oui, c'est chouette ce que tu fais, etc. » Ils ne savent pas du tout ce que je fais, mais c'est très très beau. C'est génial, et voilà, on peut continuer à discuter. Pour la petite histoire, presque 9 personnes sur 10 m'ont dit au passage, « Je ne savais pas que les protestants étaient engagés dans de l'action humanitaire. » Voilà. Donc, ça a fait tilt, forcément, par rapport à mon travail actuel. Je me suis dit, mais effectivement, un engagement social, je parle aussi au niveau local, ou humanitaire, valorise le témoignage de l'Évangile, le témoignage que nous voulons apporter en tant qu'Église, ou en tant que personne, d'ailleurs. Parce que c'est cohérent, c'est bénéfique pour les personnes qui nous observent, pour les jeunes chrétiens, pour les enfants, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je me suis dit, mais c'est un domaine où nous sommes observés et où nous sommes attendus par les contemporains. Parce que nos contemporains ont une image de Jésus. Alors bien sûr, eux, ils ont retenu plus l'aspect social que l'aspect spirituel, mais ils ont cette image de Jésus. Une église ouverte est une église qui est sensible aux besoins de ses contemporains. Et je crois que c'est une église vivante. Et comme nous désirons transformer le monde par l'évangile, nous devons présenter un modèle de société transformée. Les bienfaits d'une église en mission intégrale. Et puis aussi, une église qui est en mission intégrale, eh bien, c'est l'occasion de multiplier les possibilités de service. Nous avons tous des dons différents. C'est l'occasion de mettre chacun à l'œuvre, de s'engager, de dépendre de Dieu. C'est l'occasion aussi de prendre du recul sur notre société de consommation. Bref, une église qui est engagée dans la mission intégrale, c'est aussi un chemin vers la croissance spirituelle. La grande mission, acte d'adoration, une mission intégrale, une mission transculturelle. Mission transculturelle, c'est transmettre l'évangile intégral à des personnes ou des groupes sociaux où Jésus est méconnu. Là, c'est un ministère plus particulier, mais qui rentre aussi tout à fait dans la raison d'être de l'Église, puisque Jésus nous dit « aller vers toutes les nations pour les réconcilier avec Dieu ». Et ce mot « nation » qui est utilisé dans Matthieu 28, la racine, c'est le mot « ethnie », « aller vers toutes les ethnies ». Alors bien évidemment, le Seigneur nous attend actifs chez nous. Mais la mission transculturelle, c'est un réel besoin. Je vais vous donner quelques chiffres. Un tiers de l'humanité, cela représente plus de 2 milliards de personnes, habite dans des contextes de vie où l'Église n'est pas implantée, où il n'y a pas d'accès à l'Évangile et au témoignage. L'Église est présente dans environ 5000 ethnies, mais il en reste encore au moins 7000 sans Évangile et sans Église. Et effectivement, sans porte-parole transculturelle, ces peuples, ces pays, ces villes n'auront pas l'occasion d'entendre l'Évangile. Alors on me dirait, mais il y a des missionnaires. 5 chrétiens sur 10 000 partent de l'Europe en mission, au loin. En mission au loin. C'est 0,05%. Environ 300 Français seulement sur les 9300 missionnaires européens. Et pourtant, les missiologues, ceux qui sont sur place, qui étudient, ils nous interpellent. Ils nous disent, l'idéal est que tout être humain puisse entendre l'Évangile dans sa langue maternelle, annoncé par un membre de sa propre culture, dans son contexte natif, et là où il y a une église locale qui peut l'accueillir dans sa nouvelle famille spirituelle. Donc il y a un travail énorme. Voilà, 2 milliards de personnes, très peu d'envoyés. Et le dernier besoin, eh bien, c'était évoqué dans les textes de Lausanne, et c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle particulièrement ces temps-ci, c'est la justice sociale. Puisque nous avons plus d'un milliard d'êtres humains qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Et lorsque je visite nos églises au Tchad, donc les AET, les ACT, vous les connaissez bien, vous connaissez aussi le travail des CEIM à Madagascar, sur lesquels nous sommes en partenariat avec le Pôle Mission, avec la SMAF, je sais que beaucoup de frères et sœurs font partie de ce 1 milliard de personnes qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Alors moi, j'aime bien les calculs. J'ai fait un petit calcul. J'ai visité au centre du Tchad une petite église qui s'appelle Moukoulou. C'est un peu les origines de l'ASMAF à Moukoulou. C'est dans la brousse, une église de 300 personnes. Et je me suis dit, mais une église comme ça de 300 personnes, dans un contexte géographique où ils vivent avec moins d'un dollar par jour, ça représente combien la dîme mensuelle? Alors j'ai fait un petit calcul en imaginant que tous donnent la dîme. Moi, dans les églises que je visite en France, je ne pense pas que les églises aient un budget qui corresponde à la dîme des frères et sœurs, déjà. Mais j'ai fait quand même ce calcul là-bas. 300 personnes, église 300 personnes au fond de la brousse. La dîme mensuelle, si chacun la donnait réellement, ça représente 150 euros par mois. Pour la petite histoire, Moukoulou, c'est un budget de moins de 100 euros par mois. Pour 300 personnes, pour soutenir un foyer pastoral, un dispensaire, l'école, l'internat, le bâtiment de l'église, le fonctionnement, les actions d'évangélisation, la mission locale, etc., etc. Et c'est vrai que nos frères et sœurs là-bas sont très nombreux au Tchad ou à Madagascar. Mais en fait, au plus ils sont nombreux, au plus les besoins sont importants. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous remercier, puisque votre église est très active et donne aussi pour l'ASMAF et des dons qui vont sur le soutien soit des missionnaires, soit de ses partenariats avec ces églises. Il est bon de se rappeler du principe du don. Dans 2 Corinthiens 8, on va le lire quand même, on va y arriver, c'est juste après, je vais vous lire 2 Corinthiens 8. Par ailleurs, frères et sœurs, nous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Je ne vais pas vous faire un grand sermon sur 2 Corinthiens 8, mais je note juste une phrase. Les dons ici sont liés à une pleine consécration au Seigneur. Les dons sont liés à des frères et sœurs qui sont en route vers la maturité spirituelle. Et nous sommes bien loin de cette nouvelle manière de donner selon nos émotions du moment. Parce qu'on a passé une belle vidéo, parce qu'on a montré des photos d'enfants dans le besoin, etc. etc. Les dons s'inscrivent dans une réelle démarche de consécration spirituelle et de maturité spirituelle. La mission transculturelle, ça reste un défi. Imaginez, je pense à nos sœurs, surtout, il y a surtout beaucoup de sœurs qui partent au loin, un peu moins d'hommes. Mais comme Jésus, à l'exemple de Jésus, ils devront affronter des différences culturelles, linguistiques, de nouvelles religions, l'éloignement, l'isolement spirituel, abandonner leur vie de famille. Souvent, ils restent célibataires. Un beau défi. Et puis, j'ai pensé aussi, la mission transculturelle, c'est un bel héritage. Et je me suis posé la question, mais qu'en serait-il de nos assemblées CAEF sans le travail missionnaire de nos missionnaires suisses et des îles britanniques à la fin du 19e et début du 20e siècle? Qu'en serait-il des CAEF sans l'apport de nos frères et sœurs d'outre-Atlantique depuis l'après-guerre? Là, vous avez encore David, par exemple. Moi, j'ai été au bénéfice du ministère d'un Brad Dixon, d'un Henri Briand, etc., etc. La liste pourrait être très, très longue. Jeff? Aussi? Voilà. L'histoire de l'Église est une histoire missionnaire. Nous avons reçu l'Évangile comme un héritage à transmettre. Et nous avons donc la responsabilité, en plus de la transmission de l'Évangile à nos générations futures, parce que ça reste quand même la priorité, nos enfants, de nous soucier que l'Évangile soit prêché autant à côté de chez nous que dans le monde entier. Peut-être que peu d'entre nous seront appelés à réellement partir, mais l'Église locale, je dirais, c'est la fondation, c'est l'Église locale qui peut soutenir ses envoyés et qui peut aussi soutenir des partenariats avec des églises où les frères et sœurs sont dans le besoin. Voilà, je conclue. Christ nous a confié une grande mission. Il a confié au peuple d'adorateurs que nous sommes, à l'Église, une grande mission, prêcher, enseigner, former, baptiser, tout en prenant bien évidemment compte de toute la dimension de l'homme, de ses besoins essentiels, et ça c'est un boulot énorme. Et du coup, dans le aller, il y a une place pour chacun d'entre nous. Quelle que soit la diversité de nos dons, de nos capacités, de notre contexte de vie, il y a une place pour nous dans ce aller. Parce que la mission, c'est le projet de Dieu, pour moi, pour vous. La mission, c'est un projet individualisé, un projet personnel, qui va s'intégrer dans cette vie chrétienne où nous sommes là pour le glorifier. Un verset qui m'encourage. Vraiment, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans cet ordre de mission, il y a deux phrases qui me touchent particulièrement. Avant le « aller », Jésus nous rappelle que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Et c'est uniquement, je dis bien uniquement, je le souligne, je l'entoure en rouge, c'est uniquement pour cette raison que nous pouvons aller. Parce que Dieu, Christ, a tout pouvoir. C'est lui qui détient le pouvoir de libérer l'homme du péché. Il nous envoie, mais c'est lui qui a le pouvoir de libérer l'homme du péché. Christ a ouvert la voie, c'était le grand missionnaire, et il termine aussi ainsi ces versets de Matthieu 28. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu t'es révélé à nous. Tu t'es fait connaître à nous par ta parole, par la création, par les prophètes, par de multiples moyens. Et tu as eu tout pouvoir pour nous libérer du péché. Et je veux en être, Seigneur, vraiment reconnaissant. Nous avons besoin, Seigneur, de comprendre qui tu es, quelle est la dimension de ton amour, quel est le coût aussi de ton sacrifice à la croix pour le pardon de nos fautes. Nous avons besoin de comprendre que cette bonne nouvelle, voilà, nous la sommes appropriée, mais des millions de personnes, des milliards de personnes ont besoin aussi d'être confrontées à cette bonne nouvelle, et tu veux nous utiliser pour cela. Des fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu veux m'utiliser, mais tu veux le faire, c'est notre responsabilité. Alors ma prière, c'est que nous puissions déjà nous laisser encourager par ces paroles, que c'est toi qui opères à travers nous, c'est toi qui crée le vouloir, le faire, c'est toi qui peut convertir des personnes. Mais ma prière, c'est que voilà, nous soyons des instruments dans tes mains et que nous nous laissions placer dans les œuvres que tu as préparées à l'avance pour chacun d'entre nous. Je te remercie pour cette église ici, Sandra, qui est bien engagée dans de multiples missions locales, régionales, nationales, internationales. Et je te demande de bénir les frères et sœurs ici. Amen.